qu'il faudrait absolument qu'il le fasse. Pourquoi? Que pensez-vous que vous êtes, mon Dieu? Eh bien, c'est que là, évidemment, c'est Uranus qui préside à ça. Autrement, il n'y viendrait jamais. Dans des règles, il n'y viendrait jamais. Mais l'idée est aussi, ah, ils vont m'aider dans mes petites affaires humaines. Affaires de tout genre. Ça n'a pas de sens. Ils vont m'aider. Autrement dit, aller à une séance, pour la première fois, se dire, ah, tiens, j'ai fait un héritage. Quelqu'un est mort, il m'a laissé quelque chose. Alors, comme la huitième maison, c'est aussi la maison de la banque, c'est la maison des assurances, c'est la maison des épargnes, c'est ce qui a été mis de côté pour les mauvais jours, comme pour les bons. Alors on se dit, tiens, on va aller à la banque et on va toucher notre héritage. Oui, mais celui qui a plutôt envie, sans obscurément, s'il ne faut pas qu'il aille à la banque, ou si vous voulez, il ne faut pas qu'il aille chez le notaire, réclamer l'héritage de l'oncle Y, l'oncle Isidore, parce que il a peur que si le notaire dit « Ah, c'est vous le neveu de l'oncle Isidore, ah que nous sommes heureux de vous trouver, on vous cherchait depuis longtemps, on avait mis des annonces dans les journaux pour vous trouver, c'est que votre oncle a laissé une dette de 100 millions et que nous voudrions bien que vous la payiez. Voulez-vous vous rendre responsable de la dette de votre oncle ?» Les affaires de l'oncle sont tellement emmêlées avec certaines affaires des amis de ce monsieur, le neveu. Finalement, le neveu se dit, bon, c'est divin, peut-être c'est encore mieux de payer cette dette, et qu'après, je serai dégagé avec mes autres amis. Ou alors, pour l'amour de Dieu, que j'ai fait faire là, et il dit, non, je ne la touche pas, je ne reconnais pas ça. Eh bien, mes chers amis, quand dans une séance, vous êtes mal dirigé, entendez-vous, mais dedans, quand il y a l'ignorance sur ce qui joue, c'est que vous êtes allé vous coller au notaire réclamant un héritage et qui vous a offert une note. Ça correspond comme marge exactement à ça. Et voilà pourquoi tant de gens qui ont plutôt envie ne veulent jamais toucher ce domaine de l'ésotérisme et toutes les manifestations. Tout ce monde sous-jacent de notre plan conscient. Oh non, qu'on reste sur le plan conscient. Parce que le plancher du plan conscient, c'est une garantie que le passé ne peut pas leur courir après dans le présent. Parce qu'il y a bien des gens qui sont très intéressés, sans s'en rendre compte, que leur vie antérieure ou la vie antérieure, ou ce qu'on est resté, qui n'est pas net, qui n'est pas payé, ben, ils ont fichu le camp de là, et ils se disent, maintenant je suis ici. Ben, c'est comme si j'avais déménagé d'Europe en Amérique en laissant mes dettes en Europe et en recommençant aux neuves là-bas. Alors ça va très bien tant que je reviens pas en Europe, mais je ne sais pas s'ils reviennent, ils seraient censés par les gendarmes. C'est exactement la même idée. Alors, ils ne veulent pas toucher à ces choses. Donc, ce n'est pas un point de vue. Ils se disent, oh, mais moi, je suis un sceptique. Moi, je ne crois pas. Mais moi, je suis un matérialiste. Mais il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas tout ça. Mais je suis esprit fort. Non, non. Derrière cette rationalisation assez puérile et tellement superficielle, 9 fois sur 10, secrètement, c'est cette raison-là qui tombe en lui. Voyez la différence avec ceux qui ont le vécu. Voyez la différence, quel héritage ce n'est plus. Comme tout naturellement, il fonctionne comme ayant plein droit à recevoir des bénédictions divines par les voies de l'exaltation du par la loi du sport. Donc ici, je continue, Pluton c'est, en toute proportion gardée, c'est l'indifférencié. Pluton, toute proportion gardée, représente le principe de l'indifférence par rapport à la différence. Elle accroît représente ce qui différencie la différencier. Ce qui compose le décomposé, ce qui coagule ce qui n'est pas encore. Pluton représente le principe de la diversité et du multiple. Neptune représente le principe de l'unité. L'on va de l'unité au multiple et l'on va du multiple à l'unité. Ce double mouvement représente tout l'ensemble de la vie. Le Gémeaux va au particulier, donc il va au multiple, et la Vierge va à l'un. Et c'est ce mouvement constant de l'intelligence qui passe du multiple à l'un, puis du multiple à l'un, et qui graduellement fait de ça cette création nouvelle. Mais ça, c'est vrai pour toutes les maisons, et c'est vrai particulièrement de la huitième maison également. La huitième maison vise à l'unité, et certainement à l'unité christique, elle ne vise pas à la diversité. Le poisson, lui, c'est le sens, c'est l'axe même de l'évolution. C'est le tuyau d'orgue essentiel, c'est les grandes orgues où on part de la différenciée, où l'on monte de lui à la grande, à la différence sublime qui est le Neptune. C'est le poisson qui a cette double spirale, l'une qui descend, l'autre qui monte. C'est dans les poissons que le Christ va jusqu'au fin fond de la spirale du principe plutonien pour ramasser ce qui doit maintenant être saisi, emparé, instauré sur la croix, et instauré sur la croix, montant alors fatalement irréversiblement vers le monde neptunien en passant par le corps du Christ qui est l'Uranus. Uranus, c'est la puissance qui se trouve toujours au terme moyen entre d'un pôle Pluton et l'autre Neptune. C'est la puissance intermédiaire et qui marque toujours le degré. Or, remarquez que la racine, la puissance uranienne, c'est une puissance qui se trouve placée exactement entre ces deux pôles, elle n'est nulle part ailleurs. Et que c'est votre droit à une certaine qualité de famille spirituelle représentée par votre uranus qui va maintenant indiquer les chances que vous avez de passer graduellement plus haut vers le Neptune. Vous ne pouvez jamais aller, vous, petit soleil et petit Mercure, vous ne pouvez jamais aller plus vite que votre Uranus, ça, c'est pas possible. Soyez heureux si vous n'avez pas trop de barrage entre vous et lui. Et vous ne pouvez pas aller plus vite que lui. Car c'est lui qui dit, mon enfant, moi-même, je suis en évolution. Moi-même, j'ai passé de différents plans depuis le moment où j'ai commencé à déboucher par la grâce de quelque chose de plus grand encore, juste de la force de Pluton. Maintenant, je monte, et j'entraîne tous mes enfants, qu'ils soient morts, qu'ils soient vivants, qu'ils ne soient pas encore nés, qu'ils soient vivants il y a 1000 ans, 10 000 ans, ou qu'ils vont vivre dans 5 000 ans sur la Terre, ce sont mes enfants, c'est mon propre groupe, ils portent ma propre marque. Et à mesure que j'avance, je les prends avec moi dans cette avance. Si je réussis, et d'ailleurs, mon avance est conditionnée par la leur, il n'y en a pas un d'entre eux que j'ose laisser en arrière. Et si j'en laisse un en arrière, il faudra bien que j'attende, et vous tous qui sont membres du groupe, vous attendez aussi. Les moutons doivent attendre quand le bon berger doit chercher une brebis qui est sur le coin du fossé. Et le troupeau doit attendre. Et si vous saviez dans le secret de vos âmes et de vos vies, dans nos vies, comme je sens quelquefois que nous sommes obligés de marquer le pas pour attendre que certaines autres âmes qui sont du même bord que nous les rejoignent avant nous pour avancer. Ah, c'est pas si simple, c'est pas si enfantin que ça qu'on appelle l'avancement, le progrès, la marche en avant. Elle n'est pas une affaire strictement individuelle. Elle ne dépend pas que de nous, bonté divine, non. Et nos fautes, mais elles ne dépendent pas que de nous. Pas du tout. C'est une germination, une gestation générale, une espèce humaine. Nous sommes tous les uns dans les autres. Est-ce que c'est parce que je suis Verseau pour l'ascendant et Uranus en lui? Est-ce que c'est parce que j'ai le soleil dans le cancer contraint? Cela, en tout cas, indique la possibilité de la chose. Je sais qu'au fond de moi, il y a des heures où je me sens toujours. Quand je vois le bonheur dans les yeux d'une femme ou d'un homme, il semble que j'y participe et que c'est le mien. quand je vois la souffrance, la tragédie dans l'autre, il me semble que c'est la mienne. J'ai beaucoup d'efforts à faire pour me désolidariser de ça. Et je suis bien obligé de considérer comme une vertu, dans une certaine mesure, de m'en désolidariser si la me saisit d'une façon à nuire à ce qui est le devoir de ma propre marche. Là, nous sommes un peu tous comme ce bateau, comme ces soldats revenant du Maroc, je me rappelle la première guerre revenant d'Amérique, dans le train montant de Bordeaux sur Paris, et d'entrer quatre soldats venant du Maroc qui montant en 1917 sur le front français, ces soldats étaient tout émus, parce qu'ils venaient d'un bateau d'un transport qui avait traversé le golfe de Gascogne, et qu'en mer, ils avaient trouvé un radeau où il y avait quelques hommes d'équipage et de soldats, probablement, d'un cargo que le sous-marin allemand avait torpillé. Eh bien, le capitaine de ce navire avait un mandat, nous sommes en zone dangereuse, c'était l'époque où l'amiral von Tirpitz avait bouclé toutes les eaux autour de la France et avait décrété que tout n'était pas tout sauté s'il pouvait l'atteindre, que c'était la zone dangereuse, et il avait l'ordre supérieur de ne jamais s'arrêter une fois dans cette zone, de marcher à toute vapeur sur Bordeaux. Il a dû, donc, il ne s'est pas arrêté, il n'a pas pu laisser aller un bateau pour les sauver. Bon. Tous ces hommes ont pu voir les autres là-bas en bas, les passer et les ignorer, sachant qu'eux ne seraient jamais repêchés. Ils devaient rester à leur mort. Et tous ces hommes dans notre compartiment, on était tous émus. Il y a des moments où ils sont tous comme ça. Je continue. Alors maintenant, le scorpion, c'est un signe de crise, car enfin c'est le carré. Et il y a ceci qui est le rappel, le carré céleste et le carré d'extre. Le carré céleste, c'est le rappel de ce qui a été. Alors là, ce qui a été peut-être a été une saison. L'individu, enfin, il a été assez content d'être dans sa propre personnalité. Il n'a pas eu un complexe d'intériorité que je suis là. Alors vous comprenez, c'est là où le scorpion devient un signe trouble. C'est là, c'est qu'il est le signe de la métamorphose. Méta au-dessus, au-delà, la forme au-delà de la forme. Signe de la métamorphose. Oui, mais alors, qui veut se métamorphoser? Il y en a qui ne veulent pas. Ils disent, moi, mais je veux rester moi-même. Et on me demande maintenant de devenir membre d'une société à droits égaux. Je partage, oui, mais en même temps, je dois donner. Ah, mais jamais de la vie. Moi, je peux travailler ça. Moi, je suis. Alors, voyez-vous, là, il découvre qu'il est parti normalement. Celui qui est une partie découvre ici qu'il est la partie d'un tout. Uranus, c'est le tout. Le Christ, c'est le tout. Alors, il le découvre. Alors, normalement, il dit bien, je vais justement à mon tout. Oui, mais alors, quand il reste là tout à coup, il y en a qui se disent, mais la partie, ça vaut le tout. Et quand on dit que la partie vaut le tout, ça veut dire, sur le plan de notre langage moral, ça ne s'appelle que d'un seul nom, ça s'appelle l'orgueil. L'orgueil, c'est pas autre chose que la partie qui se prend pour le tout. Et la modestie, c'est pas autre chose que l'intelligence qui sait qu'il y a le tout et qu'on est une partie. Alors voyez, ceux qui veulent se faire l'égal du Christ, non seulement ceux qui veulent se lier, se fondre vénusiennement dans ce cœur, non. Cela dit non, je reste moi-même et je suis moi-même le Christ. Combien de fois c'est la tentation suprême, c'est l'orgueil. C'est là l'expérience qui est supposée être celle de Jésus dans le Nouveau Testament, lorsque le diable lui a montré le monde et lui a dit, je te donne le monde si tu te prosternes devant moi. C'est là où l'on vend son âme au diable. Or, vendre son âme au diable n'est pas que le diable est là lui-même, mais ça veut dire simplement qu'on refuse d'avancer. Alors, si on n'accepte pas le mouvement montant de la croix, alors c'est qu'alors on recule, on se met en arrière, on se met à contre-sens, on se met contre la loi, et simplement nier la croix, nier la puissance salvatrice de la montée de la croix, c'est tout simplement ça qui est en nous le diable. C'est d'être repris momentanément par l'inertie relative, par une vision des choses imbécile, étroite. Il n'y a rien de plus imbécile que l'homme. Alors, ceci dit, mais je vois bien que la soirée y passe, ceci dit, quelques mots encore. Oui, ici, oui, quelques mots encore à ce sujet. Marquez ça. Quelques mots encore à ce sujet. Donc, si la huitième maison représente cette puissance de montée, par exemple, regardez, Jésus est crucifié entre deux larmes. Alors, de droite, représente le poisson. Et c'est celui auquel lui, Jésus, dit, en vérité, je te dis qu'avec tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Il y a le larron de gauche, que le larron céleste, c'est le scorpion. Remarquez que le larron de gauche, lui, le larron de droite, c'est l'amour, parce que le larron de droite, c'est les poissons, et Neptune travaille là pour l'exaltation de Vénus. Alors l'âme travaille pour le cœur. Mais dans le scorpion, c'est la crise de l'orgueil. C'est de ne pas accepter l'évolution. C'est de se révolter. Alors le mauvais larron insulte Jésus sur la croix. Il n'en veut rien, lui. Il proteste jusqu'au dernier moment. Il crache sur l'univers, il crache sur les hommes, mais surtout. Ça, c'est de nouveau le principe de séparation, de division, qui n'a pas réussi à être fondu en huitième maison. Alors, la huitième maison va décider si le cœur peut s'unir vraiment à quelque chose de plus grand. Mais vraiment s'unir, vos enfants, et organiquement, et par un tandem, et par une équipe, ou s'il n'en est pas encore capable. Ça, c'est la question suprême de la huitième maison. Alors que fut-on en huit, alourdit la situation. Ça va choix, il alourdit n'importe quoi, il ralentit n'importe quoi, parce qu'il faut qu'alors que toute la croix et que toutes les forces de la vie soient mobilisées pour le prendre en main, pour lui dire, mais dis donc, obéis à la loi, mais dis donc, viens donc, c'est un principe qu'il faut éclairer, qu'il faut faire jouer dans ce sens. C'est pour ça que nous sommes là, il n'y aurait pas de berger s'il n'y avait pas d'abîme. Il n'y avait pas des espaces arides. Et voilà pourquoi la huitième maison, c'est une maison de crise, parce que c'est une quadrature entre moi et le Christ. La somme et moi. Et je l'ai très senti l'année dernière. Parce que la progression de la Lune est passée sur mon Uranus en 8. J'ai senti ça d'une façon personnelle, jamais dans ma vie. J'ai compris. Et alors, je me suis dit, bien alors, maintenant que ça m'est révélé, ce à quoi je suis, pourquoi je suis fait, pourquoi que je peux avoir encore de la vie, dans ce temps que j'y suis, dans ce monde, j'avais montré ça. Mon Dieu, c'est tellement énorme. Cette révélation du cœur du Christ, c'est tellement énorme. Franchement, on devrait être vraiment un malus pour avoir un instant d'éducation. Alors, ceci dit, il va de soi que la huitième maison, le scorpion, n'est pas la maison, que il n'y a pas là le dieu des morts, que Pluton, en mythologie, appelait le dieu des morts. Mais il faut s'entendre dans le langage analogique, que veut dire ici, dans ce cas, le dieu, que veut dire le principe, que veut dire la force, une unité spéciale d'énergie, que veut dire le moment, c'est si vous plaît. Et ce n'est pas le sens de la mort dans le sens dans lequel nous le vivons et dans lequel nous l'entendons, certainement pas. Nous avons là une mythologie ancienne, très pourrie, très, très tordue. En partie, c'est une image qui vient par les Grecs au latin, et des Grecs, c'est venu du je sais où, c'est très mélangé tout ça. C'est toute une histoire de revenir là-dessus. Mais certainement, Pluton, qui est représenté dans la mythologie comme le dieu des morts, n'est pas nécessairement pour ça le dieu de la huitième maison, parce que dans la huitième maison, ce qui est absolument capital, à savoir dans la huitième maison, les gens qui meurent sont beaucoup plus élevés que leur Pluton. Et ne sont pas entraînés dans la mort par leur Pluton ou par le Pluton de n'importe qui. Car jamais le Pluton de n'importe qui pourrait entraîner leur nature dans la mort si leur Pluton à eux n'était pas en collision. C'est la puissance de l'astrologie, c'est une des grandes choses de l'astrologie, c'est que les choses se passent par collusion. C'est la collusion de vos astres avec d'autres. S'il n'y a pas de collusion de vos astres, ça n'existe pas pour vous. Alors la collusion de la huitième maison n'est pas une collusion plutonienne. Puisqu'il y a des âmes qui meurent, qui sont magnifiques, et qui sont tout de suite sur un plan. Ils ont leur Pluton, les morts. Mais bien entendu, ils le gardent toujours, heureusement. Parce que c'est le moyen par lequel ils vont descendre à nous. Parce que nous sommes pour eux sur le plan intérieur. Ils ont leur Pluton. Et leur Pluton est plus exalté dans un sens, il est déjà plus haut, il est plus évolué. Souvent, que le Neptune de nos propres thèmes. Vous comprenez? C'est pas loin, ça. Très loin, ça. Alors, quand on pense que Pluton reste en arrière, que c'est le vieux Pluton dont on se dépouille aussi à la mort, et qu'on passe à une mutation de notre Pluton, ah, certainement, comme à la naissance, il y a eu une mutation du Pluton prénatal, comme il y a une mutation de tous nos astres. Alors je vous demande un peu, comment Pluton peut être appelé celui qui a la maîtrise, la possession de la maison du Scorpion? Comment est-ce que vous pouvez concevoir ça? Quelle absurdité, quel déplacement des valeurs. Ça n'a rien à voir compris au Scorpion, c'est s'imaginer que la mort c'est un patatras, que la mort, c'est une dépouillade totale, que la mort, c'est une descente dans quelque chose d'affreux. Mais pas du tout. Pour quelques-uns, c'est en effet un certain décalage. Ceux dont le Pluton est encore très fort et qu'il n'a pas payé son compte, il a... Mais en dehors de ça, pas du tout. Si Pluton n'est pas là, vous pouvez avoir des morts merveilleuses et immédiatement passer avoir l'organisme et l'intelligence et la lumière de ceux qui y sont associés sous le signe du Verseau. Les grandes rencontres de l'âme ne sont pas dans ce monde. Jamais. Que ça. Que ça. de mourir. Voilà pourquoi, je le répète, je crois l'avoir sustenté par une argumentation terrible, il a sa position dans les poissons. Il représente l'un des pôles des poissons. Car le signe des poissons inclut tous les poissons. Il n'est que le dénombrement des poissons. Et c'est la descente ou la montée. La force plutonienne, c'est le mouvement de descendre de l'unité au multiple. La force neptunienne, c'est l'envolée. Si votre cœur, si le sang de votre cœur descend dans vos orteils, remerciez Pluton. Si le sang de votre cœur revient de vos orteils à votre cœur, remerciez les. Parce que la distribution, l'extériorisation est fatalement une diversification. Et ça, c'est le mouvement extériorisant qui est la principe plutonienne, mais il y a l'autre mouvement. C'est une puissance relativement centrifuge, mais il y a l'autre qui est centrifuge. Or, Uranus représente la somme acquise de toute la puissance centrifuge d'un groupe d'âmes sur le chemin de l'unité totale qui se trouve au sommet du poisson dans le milieu. Il faut que je m'arrête. Je ne peux pas, il est déjà 11h moins 17. Et j'ai donc parlé de ça exactement 1h et 40, 25 minutes. C'est, je crois, assez. Je ne pourrais pas prendre ce que je voulais encore dire ce soir. Je le prendrai le mois prochain, c'est-à-dire non, le 3, le 4 juin. C'est-à-dire, je vais prendre maintenant Pluton et Mercure et continuer certains des aspects dans les deux séance de juin sur Pluton et les planètes, la fin des aspects de Pluton aux autres planètes. Mais j'aimerais maintenant profiter d'un petit moment que nous pouvons nous donner à votre choix encore pour avoir vos commentaires ou vos questions. Tâchez de me rendre plus clair encore si possible. Comment? Et alors là, naturellement, c'est le mouvement constamment de ceci à vers papa. Comment? Oui, mais enfin, mais c'est ça, n'est-ce pas? C'est très subtil, elle est fréquente, n'est-ce pas? Monsieur Koliker, là, exactement, cette conjonction arrive. Cette conjonction arrive. Alors, c'est tour à tour un héritage et puis une soustraction de l'héritage. Ça vient, ça va. C'est la dispute entre ce qui va venir et ce qui nous est pris. C'est ça. Puisque dans l'Apocalypse, c'est catégoriquement la vérité, l'Apocalypse est un livre astrologique de premier ordre, n'est-ce pas? Il est dit la femme en lettres majuscules, étant enceinte, le dragon vit qu'elle était enceinte. Alors il se mit à côté d'elle pour pouvoir dévorer son enfant à la naissance. Notez qu'il n'a jamais pensé à dévorer la femme. Elle est intouchable. Mais c'était l'enfant. C'était l'enfant. Or, toute la génération qui a plutôt conjoint des cultes, je sais, est aujourd'hui une des raisons d'une certaine force en moi, c'est que je suis capable de saisir le jeu par quoi le dragon veut dévorer l'enfant de la femme, c'est-à-dire l'inspiration immaculée, l'inspiration. Celle qui vient du mariage du masculin supérieur avec mon féminin supérieur. C'est ça. Alors, le Pluton conjoint, là, n'est-ce pas, il prend cet enfant, c'est l'enfant immaculé, ça, c'est l'enfant de la Vierge, et il le dévore, c'est-à-dire que l'inspiration que vous l'avez en tout à coup comme ça, elle est là devant vous, tout au moment, elle est grignotée, elle disparaît, elle est découpée en petits morceaux, il n'en reste plus rien. On ne sait même plus où elle est allée. Elle sait que l'autre est allée dans le sable. N'est-ce pas? Plutôt en mettre un tapis de sable devant le tuyau, devant la sortie de la fontaine, l'eau vient magnifiquement au tuyau, à la sortie, au robinet, et au bout d'un moment, on voit que le sable est mouillé, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Mais sans savoir cette eau, ou s'en servir, il n'y a rien à faire.
Pourquoi vous, si vous faites
sur Uranus en scorpion? Très dur, madame. C'est tout à fait autre chose, madame, nous ne parlons pas de ce sujet.
Non, une sorte, mais je parle d'une structure uranique.
Ah oui. Mais ça veut dire que là, elle-même, la Vénus va se développer. Qu'elle-même va se servir de ce qui est déjà acquis pour en acquérir davantage. Mais ça, c'est une autre histoire. L'important, c'est de penser que là où nous avons le cercle parfait autour d'un sens parfait, nous avons déjà un degré de l'état de l'éternité, un degré du paradis, un degré d'acquis, un roc de Gibraltar duquel on repart pour l'avenir. Et alors, est-ce que je vous surprends beaucoup en vous disant que Mars, qui représente ici la conscience que le Soleil a d'avoir à avancer, d'avoir à se sortir de son inertie, et qu'il faut qu'il porte la responsabilité, ou plus exactement, qu'il obéisse à la loi. Il ne peut vivre qu'en extension de lui-même, et pour ça, il lui faut obéir à la loi cosmique qui est symbolisée par la croix. Et cette croix est dessus lui parce qu'il doit, la porter. Vénus ne porte plus la croix, elle est derrière. Pour certains domaines, Vénus, et justement, c'est pourquoi elle est Vénus. Elle n'a plus de croix à porter, mais Vénus ne porte pas. C'est un don naturel, Vénus. C'est une richesse acquise, c'est du passé, Vénus. Vous l'avez acquis, c'est votre droit. Mars indique dans votre thème le besoin d'augmenter vos droits en les payant par l'effort. Le besoin d'augmenter vos droits en les payant par l'effort. Et le droit spécifique que Mars, le Soleil va se servir de Mars, pour obtenir un droit spécifique dans quel domaine? Spécifiquement dans le domaine de Vénus, et pas ailleurs. Essentiellement, c'est Vénus. Car, dans un thème, Mars, c'est la future Vénus, et Vénus, c'est l'ancien Mars. J'ai déjà dû dire ça dans les années passées, de loin en loin. Vous pouvez, dans un coup, si ça vous étonne, vous n'avez qu'à y réfléchir. J'espère que ça vous étonne, parce que moi, je vous apporte quelque chose. La démonstration sera patente de ça quand vous commencez à y réfléchir. Comment alors voulez-vous? Ceci, la croix est dessus. Eh bien, ça veut donc dire qu'il va faire la spirale obéissante à la loi de la croix. Il va monter, 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 que finalement, il aura dépassé cette croix. Ou du moins, que si lui, ici, le soleil est pris dans le s'inscrit dans le carré, c'est ça, là. Le soleil s'inscrit dans le carré. Mais Vénus, c'est le carré qui s'inscrit dans le soleil. C'est la même histoire. Ceci, le carré dans le soleil, dans le cercle, c'est Vénus. Ceci, le cercle dans le carré, c'est Mars. Donc, chaque fois que vous avez atteint un degré de Vénus, vous avez déposé une croix. C'est le moment, analogiquement, où Jésus ne porte plus sa croix, quand il dit « Maintenant, tout est fini. » Chaque fois que vous achevez, grâce à l'effort martien, un exercice de musique, par exemple, un exercice de chant, lorsque vous vous époumonez à atteindre la note juste dans un certain chant, lorsque vous êtes là à travailler des heures dessus, mais c'est Mars qui travaille ça. Et quand finalement, enfin, ça devient tout naturel et un avec vous, et que maintenant vous êtes le champ, et que le champ n'est pas séparé de vous, c'est Vénus. Mais c'est ça, Vénus. Donc, où va Mars? Mais à Vénus. D'où vient Vénus? Mais de Mars. Demain, l'objet. Mais parlons maintenant de l'objet le plus expérimental qui est notre prochain, notre semblable. Devant l'objet, il éveille en vous, il excite en vous le besoin de le connaître. Enfin, vous êtes irrité par sa présence. Vous n'êtes pas insensible à sa présence. Vous ne connaissez pas cet être. Si vous connaissiez bien, vous ne seriez pas irrité, ça présent, vous n'auriez pas de curiosité. La curiosité, voilà, Mars en mouvement. C'est l'appétit, c'est de connaître, c'est de pénétrer. En réalité, c'est de conquérir et d'être conquis. Mais ça commence par besoin de conquérir soi-même. Le départ, c'est sa propre croix, c'est pas celle de l'autre. Et alors, vous travaillez, vous faites ça pour l'art, mais vous faites ça pour une personne autant. Et vous travaillez la chose, et vous la travaillez jusqu'à ce que finalement, vous l'avez pénétrée de part en part, elle vous a pénétré de part en part, car autrement, si elle vous fait la résistance, vous ne pouvez pas le pénétrer, quoi que vous vouliez faire. Et quand vous avez fait ça, vous avez créé Vénus. La seule raison d'être de Mars, c'est Vénus. Vénus dans votre thème, c'est l'ancien Mars. Mars dans le thème, c'est la future Vénus. J'ai toute la besogne devant moi quand j'ai ça. Mon soleil a toute la besogne devant lui dans le Mars qu'il a dans son thème. Mais il a toute la besogne derrière lui dans la Vénus qu'il a dans son thème. Il part de cette Vénus. C'est un capital acquis. Il n'a maintenant que ce diapason, il n'a qu'à s'en servir. Et ça lui donne en même temps son pedigree, ça lui donne son statut. Parce que ça lui donne un certain statut dans un certain domaine. Par conséquent, il dira, non, 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 ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne correspond pas à ma Vénus. Et beaucoup de choses qui ne correspondront plus à sa Vénus, par conséquent, le laisse insensible, pourraient correspondre à son art. Remarquez cette chose extraordinaire dans les thèmes. Vous avez des quadratures, Mars, carré, Vénus, n'est-ce pas? Vous avez la fameuse quadrature qui arrive assez fréquemment, d'un Mars, carré, Vénus. Je monte simplement ici comme ça pour me mettre au clair. Vous avez Vénus ici et Mars là. Ça veut dire le carré. Or, vous savez ce que ça signifie tout de suite dans une personne qui a cette quadrature Mars en avant, le mouvement étant celui-ci. Mars entraîne Vénus en avant. Dans cette quadrature, vous savez que vous avez quelqu'un qui court après une réalisation d'amour. Mars entraîne la Vénus. Mars veut annexer quelque chose. Mars veut connaître. Mars veut entrer dans. Alors il entraîne par la quadrature Vénus après lui. Donc ça force une sorte d'emballement de Vénus. Oui, c'est un aspect très courant. Et nous savons que c'est un des aspects de la passion douloureuse, inexorable, mais haletante. Mais avec l'effort, ce n'est pas la conjonction Mars-Vénus. C'est la passion qui se cherche et qui mobilise sa Vénus pour obtenir la chose. Mais inversez-moi ça. Mettez ici Vénus et mettez-moi Mars là. Cette fois-ci, c'est Vénus qui réclame Mars. Que Vénus réclame Mars par la quadrature, mais c'est tout à fait autre chose que Mars réclame Vénus par la quadrature. Parce que Vénus est déjà l'acquis. Et s'il réclame Mars, que faut-il conclure? S'il réclame Mars par le carré, que faut-il conclure? Que Vénus t'a dit, je ne suis pas complètement rond encore. Je n'ai pas encore atteint le statut de ma plénitude encore. Il me faut encore une adjonction. Mars, amène-la moi. Tandis que dans le contraire, quand Mars est devant, Vénus est complète, et Mars ici veut dire, le soleil veut dire là, il faut que la Vénus grandisse. Il faut maintenant que j'en fasse un plus grand cercle, le cercle est complet, maintenant passons à une autre dimension d'elle. Alors nous mettons Mars en avant pour que le mouvement soit une extension de Vénus, qui ne peut se faire par Mars. Donc, Vénus devant, Mars derrière, occultement, et d'ailleurs si vous regardez bien vos thèmes, vous sentirez ça, c'est très important de prendre ça dans les thèmes, c'est de voir que ce Mars dans le thème, qu'est-ce qu'il fait là-bas derrière Vénus, en carré d'aller. Ça veut dire qu'au fond, dans cette vie, sur le plan, certainement sur le plan personnel, c'est une vie qui s'achève quelque chose qui n'était pas encore fini. Et que ça va arriver à une merveilleuse apothéose puisque Vénus va pouvoir l'imposer à Mars. Le cercle n'est pas fini et Vénus réclame à Mars d'amener ce qu'il faut pour le finir. Dans l'autre carré, Mars carré Vénus, le cercle est fini. Ben, il s'agit maintenant de partir de là et de chercher quelque chose de plus haut. Et alors, on met Mars, principe de l'initiative, de l'accélération, en carré de Vénus. Est-ce que tout le monde l'a compris? C'est capital, ça. Et c'est capital, ça, vous comprenez, pour comprendre le rôle de Mercure. Car Mercure, c'est Vénus couronnée. C'est le soleil. C'est le soleil là. Qui ayant obtenu périodiquement la fonction martienne et vénusienne combinée, indique cela, c'est indiqué ici par le simple symbole d'un arc de cercle qui représente le début d'un autre soleil plus grand que celui-ci. Un soleil ne peut se développer que par Mercure. Là, je veux dire que le stage précédent, l'émergence d'une âme complète, ronde, solaire, ce qui précède son émergence, c'est l'arc, c'est le demi-cercle de Mercure. Et le demi-cercle de Mercure, lui, dépend et de l'énergie de Mars et de la plénitude vénusienne. Combinez-moi Mars-Vénus, vous faites avec le Mars l'effort, la récompense de Vénus. De Vénus, ça ira à Mercure, de Mercure, ça va à un soleil nouveau, qui est l'âme que vous avez acquis à force d'avoir employé ses énergies, et la récompense de ceci, c'est l'intelligence qui est la couronne de votre âme. Car l'intelligence couronne de votre âme n'est pas autre chose que, comment dirais-je, le domaine dans lequel va finalement s'asseoir l'âme future de vous-même, le soleil futur. Votre soleil, c'est votre ancien Mercure. Et votre Mercure, c'est votre futur soleil. Votre Mars, c'est votre futur Vénus. Votre Vénus, votre ancien Mars. Votre Saturne, c'est votre futur Jupiter. Votre Jupiter, c'est votre ancien Saturne. Voilà la Terre, la Terre, la Terre. Ça va par Terre, ça. Ceci dit, on parle, il faut se pénétrer de ces vérités psychologiques, biologiques fondamentales, sur le symbolisme géométrique des planètes. Il faut les pénétrer en soi-même tranquillement, c'est comme ça qu'alors le thème devient éblouissant quand vous le regardez, le thème humain. Parce que alors les planètes parlent leur vraie langue derrière leur symbole. Il faut se rendre compte qu'il n'y a qu'une intelligence, c'est celle du cœur. Que c'est le cœur qui est à la source de la pensée. Que c'est du cœur que vient la pensée, c'est-à-dire et surtout la capacité d'embrasser les pensées, de les tenir. De les maîtriser, de les lier agréablement. Voyez-vous, vous avez une Vénus, par exemple, conjoint ou sextile Mercure, mais comme la personne pense facilement, comme elle lit son raisonnement facilement, comme elle trouve facilement les mots pour dire ce qu'elle pense, et les mots même élégants, l'esthétique verbale. Elle tient dans une conjonction ou un sextile Vénus-Mercure. Or, heureusement, entre Vénus et Mercure, il n'y a jamais plus de 76 degrés de séparation, plutôt plus de sextile ou de la conjonction. Voilà. Vous me direz, mais enfin, des tas de gens, ils ne sont pas bêtes du tout, ils sont très intelligents, ils n'ont pas beaucoup de cœur. Évidemment, mais ça n'est pas une raison pour laquelle ils n'ont. Vous êtes tranquille, l'intelligence a été payée cher, a été achetée cher par l'action martienne et vénusienne antérieure à cette vie. Et que le secteur actuel soit un secteur particulier où Vénus n'a pas beaucoup à faire, ça se comprend encore. Ça peut facilement se comprendre. Autrement dit, c'est pas